Bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez, c'est bon ?
Donc après ce petit moment d'installation, mais qui a permis au dernier d'arriver, nous allons donc nous allons commencer la rencontre avec Valérie Mangin ici.
Rebonjour donc.
Qui est scénariste de bande dessinée que certains d'entre vous connaissent peut-être très bien et qui va nous parler de son parcours. Donc Valérie Mangin a une formation assez particulière puisqu'à la base elle ne vient pas d'une école de bande dessinée mais de l'école des Chartes et en ayant fait à côté une formation en histoire et histoire de l'art à la Sorbonne. Et donc évidemment ma première question sera qu'est-ce qui vous a amené dans cette formation et qu'est-ce qui vous a amené à la BD ensuite ?
Bon, en fait, adolescente, j'adorais beaucoup l'histoire et la science-fiction. Et la science-fiction, pour l'instant, je me sentais pas du tout devenir écrivain, donc je me suis plutôt tournée vers l'histoire pour trouver un métier. Et donc l'école des Chartes, étant l'école des futurs conservateurs d'archives, de bibliothèques ou de musées, je me suis dit que ça pourrait être très bien pour moi. Et que ça, étant bibliothèque, ça me permettrait de lire beaucoup et de continuer donc à aimer la SF et la bande dessinée parallèlement à mon métier. Donc, je me suis tournée vers l'école des Chartes comme ça. Alors l'école des Chartes, bon, c'est assez dur à avoir, il y a un grand concours à l'entrée, il faut donner une thèse pour en être diplômée. Donc ça m'a quand même pris énormément de temps, d'énergie et ça a été très très lourd à gérer, mais ça m'a quand même laissé le temps pour quand même continuer à lire des BD et quand même continuer à lire de la science-fiction.
Et donc de là vous êtes devenue scénariste de bande dessinée. Comment ?
C'est ça. Et bien, donc comme je vous disais, je lisais beaucoup de bande dessinée et comme j'étais à Paris à l'école des Chartes, j'avais la possibilité d'aller à des séances de dédicaces. Et à une de ces séances, j'ai rencontré l'auteur qui a fait l'affiche et qui expose en bas que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Denis Bajram. Et il se trouve que la séance de dédicace s'est bien passée, c'est même très bien passé, au point qu'un an après, on était mariés. Et c'est un peu grâce à lui que je suis entrée dans le milieu des auteurs de bande dessinée. Parce que c'est vrai que, étant chartiste, étant un futur conservateur, je parlais beaucoup d'histoire. Mais c'est vrai que j'avais envie d'en raconter moi-même. Et que, bon, en tant que scientifique, ça me gênait beaucoup, en fait. De me laisser aller à la fiction. Mais pour moi, c'était deux choses bien séparées. Et c'est un peu grâce à lui que je suis passée de l'histoire aux histoires, en fait. La première série que j'ai faite, dont on va vous parler, qui s'appelle Le Fléau des Dieux, en fait, c'était lui qui devait la faire à la base. Et je trouve que ça n'a pas pu se faire pour des raisons de temps et d'emploi du temps. Enfin, il n'avait pas le temps, en gros, de gérer à la fois UW1 et Le Fléau des Dieux. Et moi qui devais à la base juste l'aider à faire sur la documentation en fait sur l'Empire romain, il m'a un peu passé les manettes du scénario et ça m'a beaucoup plu, ce que je faisais a beaucoup plu au dessinateur aussi. Et donc petit à petit, je suis passée comme ça au scénario.
Alors donc Le Fléau des Dieux, pour ceux qui connaissent pas, c'est la première série des Chroniques de l'Antiquité Galactique, qui est une série qui mêle space opéra et antiquité.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est l'histoire de l'affrontement d'Attila contre l'Empire romain, mais le tout en SF, c'est-à-dire qu'on se bat grâce à des vaisseaux spatiaux. Et grâce à des monstres un peu qui peuvent se téléporter d'une planète à une autre.
Et comment, justement, donc cette série, vous venez me dire, c'était pas forcément une série dont vous deviez avoir la charge à ce point à la base. Comment ça se passe, en fait, le travail de scénariste de bande dessinée sur un de vos projets ?
Là, ça a été encore plus particulier parce qu'Alexa Gadjic, le dessinateur de cette série, est serbe et n'est pas francophone, en fait, uniquement anglophone, et habitait donc à Belgrade à l'époque. Et donc on se connaissait uniquement par internet. Bon, on s'était rencontrés une fois au festival d'Angoulême. On avait sympathisé, mais on ne pouvait pas évidemment, on n'était pas en atelier ensemble, on ne pouvait pas travailler côte à côte ensemble pour tout élaborer. Donc c'est tout un travail qui se fait à distance. J'écris de mon côté, j'écris d'abord le synopsis, qui est une sorte de nouvelle qui raconte en gros ce que dit l'album. Ensuite, je l'envoie à Alexa, je lui demande un peu ce qu'il en pense. Il me dit, ça me plaît, ça me plaît pas, ou ça, c'est trop compliqué à dessiner, ça ne va pas, c'est pas cohérent avec le reste de l'histoire. On discute un peu de tous les détails. Quand on est d'accord là-dessus, j'écris ce qu'on appelle le scénario, c'est-à-dire pour moi le découpage page à page, puis case à case d'un album, avec à la fois la description de la case. Alors, case 1, gros plan d'Attila qui dit « je vais tous vous tuer ». Case 2, le général romain en face lui répond, etc., etc. Et en fait, comme ça, je lui remontre à nouveau, et lui, à partir de ses indications, fait un brouillon de la page, un storyboard. Alors là, c'est très croquis, hein, c'est très jeté, on voit globalement où sont les masses, où sont les lumières. Voilà, c'est un peu comment ça va se lire. On voit déjà si cette page sera clairement lisible, s'il n'y a pas d'erreur de mise en scène. Par exemple, des choses toutes bêtes, mais vous savez que la flèche du temps va de gauche à droite. Donc si on veut que l'histoire avance, montrer un personnage qui court, il doit forcément courir de gauche à droite. Et si dans des cases, on commence à montrer des personnages qui courent de droite à gauche, ça ne fonctionne plus. Bon, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Mais on doit veiller à ce que tout s'enchaîne assez naturellement et soit facilement lisible pour le lecteur. Et c'est à ce stade de la collaboration qu'on voit un peu ça. Et quand tout est au point, il faut enfin dessiner sa page, enfin la peindre. Parce que lui, en fait, travaillait en couleur directe, ce qui est une technique un peu particulière. J'imagine que pour la plupart des bandes dessinées, c'est un peu ce que vous voyez dans l'exposition en bas, c'est-à-dire qu'on fait d'abord des croquis, puis on dessine la page en noir et blanc, et ensuite on la met en couleur, ce qui est la méthode la plus classique en bande dessinée. Alors avant, quand on travaillait à l'ancienne, on dessinait tout ça sur papier. On dessinait le noir et blanc sur papier, puis on faisait un bleu, c'est-à-dire qu'on faisait une impression de ce noir et blanc qu'on mettait en couleur ensuite. Maintenant, on ne travaille plus comme ça, évidemment, tout se fait sur informatique, à la fois le noir et blanc et la couleur. Et Alexa, lui, avait encore une technique un peu différente, c'est-à-dire qu'il ne séparait pas le noir et blanc et la couleur, mais qu'il peignait directement, comme un peintre classique, ses planches, en fait. C'est ce qu'on appelait la couleur directe.
Après le Fléau des Dieux, qui d'ailleurs a plutôt bien lancé votre carrière.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance, c'est mon premier album à marcher de suite. Donc finalement, je n'ai pas eu à entamer une carrière de conservateur, j'ai pu me consacrer entièrement à la bande dessinée tout de suite. Ça, c'est vraiment exceptionnel, j'ai eu beaucoup de chance, oui.
Et donc après, vous êtes passé vers carrément d'autres univers, donc avec par exemple Le Petit Miracle.
Le Petit Miracle, c'est l'histoire d'un petit garçon qui naît la tête séparée du corps juste avant la Révolution. C'est un conte fantastique qui se situe au XVIIIe siècle. Et ce pauvre petit garçon qui est très maltraité, évidemment, parce qu'à son époque, ce genre de handicap passe très mal, c'est-à-dire qu'on le prend pour l'enfant du diable ou on en fait un monstre de foire. Et on finit par tellement le maltraiter qu'il devient méchant et que pour se venger, il invente la guillotine. Voilà, comme ça, tout le monde sera comme lui, tout le monde aura la tête séparée du corps.
Et donc aussi, vous avez fait du polar, vous avez fait du 19e siècle.
C'est ça qui est bien en BD, c'est qu'on peut faire un peu tout, quoi. C'est comme écrire un scénario de BD va quand même... Enfin, je fais des 48 pages, en fait, format classique. Et c'est vrai qu'écrire 48 pages en BD, ça va quand même plus vite qu'écrire un roman. Et ça demande beaucoup moins de moyens financiers que faire un film. On a la totale liberté pour nos décors, pour nos personnages. Si on veut un acteur, il est toujours disponible. Il fait ce qu'on lui demande de faire sans protester. Donc on a une très grande liberté qu'on a en BD qu'on n'a pas forcément en littérature, si bien sûr, mais pas forcément au cinéma qui réclame beaucoup de moyens. Donc ça permet effectivement de varier les univers et de faire beaucoup de choses en parallèle.
Et est-ce que dans ces univers-là, vous avez des grandes lignes ou des grands thèmes communs qui irriguent certaines de vos BD, certaines de vos séries qui reviennent plusieurs fois, qui vous intéressent particulièrement?
J'essaie toujours varier parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite, en fait. C'est pour ça que je varie beaucoup les époques et les thématiques. Après, j'aime beaucoup systématiquement le mélange de l'histoire et du fantastique ou de la science-fiction. Parce que c'est vrai que déjà en tant que formation d'historienne, ça me gênait de faire des bandes dessinées historiques, purement historiques, parce que j'ai l'impression que quand on fait toujours de l'histoire, on ment au lecteur. Par exemple, en ce moment, là, j'écris aussi un péplum qui s'appelle Alix Senator, qui est la suite, enfin le reboot de la série Alix classique que vous connaissez peut-être. Et c'est une série qui a une forte dimension historique et dont les fans attendent un certain réalisme historique très poussé, même un réalisme très poussé. Et c'est très embêtant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur l'Empire romain et donc on ne sait pas comment les représenter. Des choses toutes bêtes allant de la forme des chaussures ou des poignées des portes et des choses comme ça, ou même des très grands bâtiments. J'ai écrit une histoire qui se passait en Orient l'année dernière, dans le grand temple de la déesse Cybèle en Asie mineure. C'est un temple qui est totalement perdu, dont on n'a plus aucune trace, et qu'on doit entièrement reconstruire de manière réaliste. Mais on ne sait pas comment il était. Donc on ment au lecteur, on lui invente un temple, on lui fait croire que c'était vrai, mais en fait ça ne l'était pas. Et finalement, inclure du fantastique ou de la science-fiction, ça me permettait de dire au lecteur, attention, je vous raconte une histoire, mais méfiez-vous, ce n'est pas la vraie histoire quand même. Je la raconte aussi vraie que je peux vous la raconter, mais attention, voilà, il y a toujours un décalage.
Alors, dans l'historique, vous avez aussi travaillé sur Jeanne d'Arc, avec une vision de Jeanne d'Arc qui n'est pas forcément celle qui est la plus courante de nos jours, je crois. C'était une volonté vraiment de refaire vivre ce personnage, de revenir peut-être à une version plus ancienne.
Je sais pas si c'est tellement une version plus ancienne. Enfin, j'étais partie du principe que Jeanne d'Arc était vraiment une sorcière, en fait. C'est-à-dire que quand les Anglais l'ont brûlée pour sorcellerie, ils avaient raison. Et donc, j'ai imaginé un personnage, mais sorcière au sens proche du culte de la nature. Et par là, j'ai voulu aussi rappeler que souvent étaient taxées de sorcellerie les femmes fortes, en fait, avec une forte personnalité, et faire en quelque sorte un livre féministe pour montrer que cette jeune femme qui était paysanne comme ça à la fin du Moyen-Âge, finalement, pour elle, devenir une sorcière, puis devenir un guerrier, puis combattre les Anglais, c'était une manière de se libérer, en fait, de tout ce que sa condition sociale pouvait avoir d'écrasant à l'époque. Et c'est une manière de trouver un destin personnel, un destin tragique, finalement, mais tout de même un destin qu'elle s'est choisi, et pas ni ses parents, ni la société de son temps, en fait. Et le personnage de Jeanne d'Arc me semblait intéressant pour ça. D'abord parce que c'est un personnage qui a été souvent récupéré par l'extrême droite, et je trouve que c'est extrêmement dommage de la leur laisser, parce que c'est un personnage qui peut être extrêmement porteur, justement, en termes de féminisme, en termes de figure émancipatrice. Et je pensais que reprendre ce thème, justement, le mêler à la fois au thème de la sorcière, ça pouvait être justement montrer ça, en fait, sortir le personnage de son image traditionnelle de femme ou soumise aux hommes ou soumise à Dieu.
Et vous avez des bandes dessinées qui, comme ça, tout en étant des vraies bandes dessinées de genre, avec tout le côté, justement, péchu, aventure que ça implique, mine de rien, vont parfois traiter de thèmes assez forts, assez lourds, notamment aussi qui parlent du religieux, qui parlent des prophéties, de comment elles peuvent influer sur une civilisation, comment elles sont reprises politiquement. Donc on a ça évidemment dans Le Fléau des Dieux, mais on a ça donc dans le livre de Skell aussi, ou dans Draco. On a le thème de la religion qui revient dans Les Trois Christs. Est-ce que pour vous la BD est un bon médium pour justement parler de choses assez profondes, mais de manière accrocheuse pour le lecteur ?
Je pense que oui. C'est-à-dire que la BD a l'avantage d'avoir à la fois les histoires, les images, et le texte. C'est-à-dire qu'on peut parler, on a le texte pour parler aux gens d'une manière extrêmement intellectuelle, extrêmement précise, et l'image aussi pour les faire rêver et faire jouer leur imagination en même temps. Et c'est vrai que mêler les deux, ça me semble vraiment un moyen de parler, à tout le cerveau de nos lecteurs en même temps, oui.
Alors à côté de ça, vous allez dans des aventures, disons, plus pulp. Notamment la série Doggy Bag à laquelle vous avez participé, qui est vraiment une série très référencée, cinéma Grindhouse, cinéma bis années 60-70. Vous participez aussi à la revue Pandora.
Oui.
Et ça permet de prendre une récréation en quelque sorte.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je vous parlais de choses très, très engagées et presque politiques il y a 5 minutes. Là, c'est exactement tout le contraire. C'est-à-dire que dans Doggy Bag, par exemple, ce sont des histoires greenhouse, c'est-à-dire des histoires volontairement de mauvais goût, qui parlent beaucoup de sexe et de violence sans vraiment donner de sens à tout ça. Et pour un auteur, c'est vraiment une récréation, c'est-à-dire que c'est une revue dans laquelle on peut faire n'importe quoi. C'est une revue qui n'est pas destinée au jeune public, donc dans laquelle on peut vraiment se lâcher. Et c'est vrai que ça fait parfois du bien quand on fait des choses très contraignantes, quand on essaie vraiment de réfléchir et faire des choses pointues. Il faut avoir une soupape de sécurité pour se lâcher et raconter un peu n'importe quoi pour une fois.
Et une de vos dernières séries publiées, c'est la série Abîme, qui est assez expérimentale, pourrait-on dire ?
Oui, je veux dire que j'aime aussi faire des bandes dessinées assez, assez formelles, que ce soit dans Abîme ou dans Trois Christs. Alors Abîme, en fait, tire son nom du fait que je joue beaucoup sur la figure littéraire de la mise en abîme. Alors, vous voyez ce que c'est, je ne sais pas si vous connaissez tous le couvercle des boîtes de vache qui rit, sur lequel on a une vache qui a une boucle d'oreille, où il y a une vache qui porte des boucles d'oreille, ou une vache est représentée qui porte des boucles d'oreille, etc. Le principe de la mise en abîme, c'est ça, c'est quand un récit est enchâssé dans un autre, en allant le plus loin possible dans le principe. Donc quand j'ai voulu écrire Abîme, j'ai voulu voir jusqu'où on pouvait pousser ce principe justement en bande dessinée. Et donc le tome 1 d'Abîme, c'est un peu un récit sur la vie de Balzac. Bon, c'est une fausse vie de Balzac, hein, je vous rassure, c'est une vie de Balzac où au moment où il écrit La peau de chagrin, où il devient célèbre, il y a un récit un peu un de ses ennemis apparemment qui s'amuse à publier un récit, enfin, la vie de Balzac justement, enfin le passé de Balzac dans une revue littéraire, et à raconter un peu tout ce que Balzac a fait de mal dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a volé la femme de son mentor, il a volé le livre d'un autre, etc., etc. Donc c'est une fausse vie de Balzac comme ça, très romancée, avec son passé qui lui revient à la figure un peu et qui va le mener à la folie. Et dans le tome 2 de la trilogie, je reprends le principe de cette vie de Balzac, sauf que j'imagine que c'est le cinéaste Clouzot qui fait un film sur Balzac. Donc Clouzot fait un film sur Balzac, qui fait un roman sur lui-même. Et dans le tome 3, c'est Valérie Mangin, jeune étudiante, qui découvre dans une librairie un livre écrit par une certaine Valérie Mangin, qui parle du cinéaste Clouzot, qui parle du romancier Balzac. Donc comme ça, les récits s'enchaînent et s'enchassent les uns dans les autres, jusqu'au vertige, j'espère. Et donc je me suis amusée comme ça à construire des récits très enchaînés, pour voir jusqu'où la BD nous permettait d'aller dans ce domaine formel. Et Trois Christs, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que Trois Christs, c'est un seul album avec trois histoires, dans lequel je raconte trois fois l'histoire de la découverte du Saint-Suaire. Donc, j'imagine que vous voyez tous ce qu'est le Saint-Suaire, parce que c'est ce tissu qui a gardé l'empreinte du Christ après la crucifixion. Et donc j'imagine que dans la première histoire, le Saint-Suaire, c'est bien le linceul du Christ ressuscité. Donc le Christ a bien ressuscité, il est bien revenu sur terre, c'est bien son linceul qu'on montre aux fidèles. Dans la deuxième histoire, j'imagine que non, c'est un faux. C'est-à-dire qu'il y a des escrocs au Moyen-Âge qui avaient besoin d'argent pour leur petite commune, leur petite église de campagne, et qui se sont dit qu'avec une relique comme ça, ils attireraient beaucoup de pèlerins. Donc ils ont crucifié un malheureux pour garder son empreinte sur du tissu. Et dans la troisième histoire, j'imagine que tout ça, c'est un peu une sorte d'Da Vinci Code. En gros, il y a une pierre mystérieuse radioactive qui est tombée dans un village, qui a rendu un peu tous les habitants fous et zombéifiés, et que tout ça, ça les amène à faire des cérémonies un peu hérétiques dans lesquelles on sacrifie des gens pour commémorer le sacrifice du Christ, et on se sert de la radioactivité pour imprimer son linceul. Enfin, une histoire fantastique, complètement absurde. Mais le principe, c'est que ces trois histoires qui racontent trois fois la même chose se déroulent avec les mêmes personnes au même endroit. Et j'utilise aussi les mêmes cases et les mêmes dialogues. C'est-à-dire que je me sers vraiment des mêmes éléments pour raconter trois histoires totalement différentes avec des vérités totalement différentes. Et par là, j'ai voulu montrer qu'effectivement, on pouvait, en gros, faire dire n'importe quoi à n'importe quoi. Et c'est vrai que j'ai écrit ça au moment où il y avait une grande vogue du Da Vinci Code, où beaucoup de gens disaient « Vous voyez, l'Église nous a fait 2000 ans que l'Église nous ment. C'est pas vrai, le Christ était marié, il a eu des enfants, etc. » Tout ça, tout ce qu'on nous a dit, c'était des mensonges. Et d'un autre côté, croyaient absolument ce qui était dans le Da Vinci Code. Tout d'un coup, ils avaient remplacé une vérité par une autre vérité sans la discuter plus qu'autrefois, quoi. Et quand on a fait Trois Christs, on a vraiment voulu montrer que on pouvait partir de n'importe quoi pour arriver à n'importe quelle vérité, quoi. Qu'il fallait vraiment être très méfiant quand on voyait des images ou des textes, qu'on pouvait vraiment nous amener à croire à peu près n'importe quoi.
Donc pour vous, on peut vraiment se servir de la bande dessinée et aussi des cultures de genre, des cultures de l'imaginaire pour réagir sur l'actualité brûlante.
Oui, je pense. C'est peut-être plus facile avec la science-fiction, enfin la partie science-fiction qu'avec la partie vraiment historique, même si évidemment il y a toujours l'histoire n'est pas un éternel recommençant, il y a quand même des situations qui reviennent. C'est vrai qu'avec la science-fiction, on peut explorer justement ce qui nous arrive et essayer de donner un sens à tout ça et de montrer ce qui risque de nous arriver si on persévère dans cette voie-là. Il y a une BD que vous avez peut-être vue l'an dernier qui s'appelle La Présidente, qui imagine que Marine Le Pen gagne les prochaines élections et imagine ce qu'elle va faire une fois au pouvoir. Bon, le tome 2 s'appelle Totalitaire, donc vous voyez, ça va vraiment, vraiment très mal tourner. Bon, là, c'est vraiment de la BD qui est vraiment de la politique fiction, vraiment au pied de la lettre. Bon, moi, je vais évidemment dans des choses beaucoup moins réalistes, mais c'est sûr que, par exemple, je vous parlais de Jeanne d'Arc, qui est une image, une BD féministe en quelque sorte. C'est sûr qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on peut traiter de cette manière. Quand j'écris Le Fléau des Dieux, par exemple, je parle d'un empire romain qui a atteint sa perfection, en quelque sorte, qui s'étend sur toute la galaxie, qui est une structure politique et quasiment parfaite, où le pouvoir n'a pas varié depuis 1000 ans, où la population... Alors, j'ai pris volontairement des populations blanches, où tout le monde... Il n'y a plus de pauvres, tout le monde est heureux comme ça. Tout le monde vit dans des belles maisons avec de beaux jardins. Tout le monde prie les dieux de la même manière. Tout le monde est heureux de la même manière. Et finalement, tout est sclérosé. L'art a quasiment disparu. Il n'y a quasiment plus de philosophie non plus. Et finalement, pour secouer tout ça, il faut que des gros barbares arrivent pour finalement, donner un coup de pied dans la fourmilière et rappeler aux gens que qu'est-ce que la civilisation, qu'est-ce que la barbarie, qu'est-ce qui fait qu'ils ont vraiment été civilisés, quoi. Et est-ce qu'on n'a pas finalement besoin parfois d'être secoué pour rester vivant? Et évidemment, tous ces thèmes-là peuvent très bien se traduire en bande dessinée comme dans les autres formes de médias.
D'ailleurs, après Le Fléau des Dieux, vous avez continué à creuser, si on peut dire, l'univers des chroniques de l'Antiquité galactique en allant cette fois fouiller dans son passé, et notamment dans son passé mythique, avec une mise en abîme, là encore.
Oui, c'est-à-dire que dans le dernier Troyen, j'imagine un peu la naissance mythique de la Rome galactique, c'est-à-dire comme la Rome que nous connaissons est censée être née de Romulus et de Rémus, les fils du dieu Mars, j'imaginais que la Rome galactique, comme ça, était née aussi de la chute d'une Troie totalement fantasmée, d'une planète comme ça que des Grecs auraient détruite, avec les survivants qui vont essayer d'aller fonder le futur Rome autour d'Énée. Malheureusement, j'ai pas pu réaliser une autre série que j'avais appelée Imperator, qui était censée montrer en contraste les origines réelles de cet homme-là. C'est-à-dire, pourquoi on crée cette mythologie ? Bah, c'est pour cacher une réalité qui n'est pas forcément très amusante. Et ce que je voulais faire dans Imperator, c'était montrer que la civilisation vers laquelle on va, si on arrive à conquérir l'espace et à faire un empire galactique, ça va plutôt malheureusement être un empire totalitaire, voire même, j'imaginais même un empire fasciste, en fait. Où avant que les Romains, avant d'obtenir cet empire romain, on allait plutôt vers un empire à la Mussolini, avec même un dictateur que j'avais appelé Benito et qui avait le physique de Mussolini, et qui est un empire totalitaire, qui, entre autres, voulait exterminer les aliens pour réserver la galaxie à la race humaine. Et je faisais un peu de mes Romains galactiques la réaction face à ce fascisme pour expliquer que Rome, c'était pas ça, c'était pas un empire totalitaire, c'était au contraire une belle idée qui méritait d'unifier la galaxie. Bon, ça, la série n'a pas pu se faire, donc on en est resté aux origines mythiques de la Rome galactique. Mais c'est vrai que ça aurait été assez amusant, je pense, de montrer le contraste entre la mythologie et la réalité.
Est-ce que finalement, la série qui s'est faite, c'est celle sur les mythes, est-ce que les lecteurs ont plus envie qu'on leur raconte le mythe que la vérité un peu plus glauque ?
Sur le coup, je ne sais pas, peut-être. Faudrait leur demander aux lecteurs.
Voilà.
Mais moi, en tout cas, j'ai voulu le raconter en premier parce que c'est vrai que je voulais quand même avoir cette belle idée au départ. Bon, évidemment, je pensais vraiment faire les deux. Hein. Je ne m'étais pas dit que le reste allait foirer. Mais je voulais, avant de faire ce qui était vraiment glauque, montrer quand même qu'on pouvait s'en sortir. Oui. Et ne pas commencer par l'horreur pour laisser les gens sur un suspense horrifique pendant plusieurs années. Quoi.
Et justement, enfin, vous allez dans beaucoup d'univers différents, vous traitez donc de thèmes assez variés. Et vos lecteurs dans tout ça, est-ce que vous avez des lecteurs spécifiques sur les univers ? Est-ce qu'ils vous suivent d'univers en univers ? Est-ce que vous avez un moyen de suivre ça un peu ?
C'est assez difficile à dire. J'ai peu d'occasion de rencontrer mes lecteurs comme aujourd'hui. Parfois, on les voit en dédicace. Et, bon, là, ce sont plutôt des collectionneurs que des lecteurs qu'on voit. Donc effectivement, on a tendance un peu à collectionner tout ce que fait un auteur. Donc ils nous suivent partout. Après, c'est assez compliqué de voir si le public suit vraiment. Je ne sais pas si vous lisez, si vous suivez plutôt un auteur ou si vous suivez plutôt une série quand vous lisez, mais on a toujours le noyau dur des fans hein, qui nous suivent quoi qu'on fasse de toute façon. Mais c'est vrai que non, je ne sais pas en fait, je ne sais pas vraiment.
Et vu les thèmes donc que vous brassez, je pense que ça surprendra pas grand monde dans l'assistance que vous ayez aussi par ailleurs un engagement fort pour la défense du droit d'auteur. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Avec Denis Bajra, mon mari, nous avons été parmi les membres fondateurs du SNAC. Le SNAC, c'est le syndicat national des auteurs-compositeurs et donc des auteurs de BD. Et c'est vrai qu'on est obligé de beaucoup s'engager en ce moment, parce que vous le savez peut-être, mais il y a une grave crise qui secoue toute la bande dessinée. Les auteurs, jusqu'à notre génération, je dirais que la bande dessinée était vraiment un métier qu'on exerçait à plein temps et duquel on pouvait vivre comme en étant professeur, journaliste ou autre chose. Et que depuis quelques années, il y a de plus en plus de livres, mais il y a toujours à peu près le même nombre de lecteurs. Donc évidemment, chaque livre se vend moins et chaque auteur gagne moins bien sa vie. Et donc, ça commençait à devenir très, très difficile. Et évidemment, le SNAC essaie de répondre à cette problématique-là, en fait, de déprofessionnalisation des auteurs. Mais pour en avoir le cœur net, on a aussi fondé les états généraux de la bande dessinée. Mais là, c'est plutôt pour faire une enquête, justement. Parce qu'on a réalisé que la profession auteur de bande dessinée est une des professions les moins connues des professions artistiques. Et donc, on avait très peu de données. C'est-à-dire qu'on parlait un peu dans le vide de cette crise, sans vraiment savoir où on allait. Et c'est vrai qu'avec les états généraux, on a réussi à faire une grande enquête pour voir exactement où on était. Et malheureusement, ça a été encore pire que ce qu'on pensait. Parce qu'on avait souvent coutume de dire au SNAC que les autres, 50% des auteurs ne gagnaient pas le SMIC. Alors, c'est particulièrement gênant, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a quand même une grande différence entre le métier d'auteur de bande dessinée et les autres métiers artistiques. C'est que pour nous, c'est une profession à temps plein. C'est-à-dire que pour dessiner un album de bande dessinée, il faut y consacrer un an de sa vie à 40, voire plus d'heures par semaine. Donc c'est très compliqué d'avoir un autre métier à côté si on veut faire son album tous les ans. Et donc, quand je dis qu'un auteur ne gagne pas le SMIC, un auteur n'a pas la possibilité de faire un autre métier à côté. Donc c'est vraiment des conditions de vie difficiles. Et donc on disait au SNAC que 50% des auteurs de bande dessinée ne gagnaient moins que le SMIC de leur activité. Et bon, en fait, c'est vrai, on s'est rendu compte avec cette enquête que c'était même pire que ça, qu'il y avait même 30% des auteurs qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Et si on ne prend que les femmes, même 50% des auteurs. Donc voilà, donc on a tiré le constat de cette grave crise. Alors maintenant, évidemment, il faut trouver des solutions avec nos partenaires, éditeurs et libraires. Le plus dur reste à faire, je dirais, mais au moins, on sait où on est et on sait où on va.
Et donc, vous avez aussi, vous participez aussi au collectif des créatrices de BD.
Oui, c'est ça. C'est un peu un souci un peu parallèle. Je vous disais que les femmes, en BD, les femmes gagnaient encore moins leur vie que les hommes. Bon, c'est un peu le cas partout. Hein. Il n'y a pas vraiment de spécificité là en bande dessinée. C'est vrai qu'au niveau de revenus auquel on arrive, c'est vraiment très très inquiétant. Et c'est vrai que parallèlement à ça, il y avait d'autres choses dont on s'est aperçu dans notre enquête. C'est-à-dire que systématiquement, les femmes étaient moins bien servies que les hommes. C'est-à-dire qu'on pensait a priori que la bande dessinée était quand même un milieu artistique ouvert où on vit, je veux dire, les hommes et les femmes vivent en bonne camaraderie, où il n'y a a priori pas de discrimination envers les femmes, ou je parle des femmes, mais je pourrais dire envers les homosexuels ou envers les personnes issues de l'immigration, etc. J'ai l'impression que tout le monde vit en bonne intelligence, s'entend bien, que c'est un milieu, j'allais dire de gauche entre guillemets. Mais en fait, non, malgré ça, sans qu'on s'en rende compte, il y a quand même énormément de disparités entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont moins mises en avant. C'est parce que la politique commerciale des éditeurs est globalement inférieure vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des hommes. Donc que les ventes des livres des femmes sont globalement inférieures, de manière générale. Mais aussi que les femmes reçoivent moins de prix, ont moins d'exposition, sont moins mises en avant de manière systématique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une discrimination inconsciente, que les gens ne se rendent pas compte qu'inconsciemment, ils discriminent. Ils mettent moins en avant les femmes que les hommes, et qu'à force, ça crée des grosses disparités dans les carrières. Et en fait, le collectif, ça vise pas à punir les méchants hommes qui traumatisent les femmes, ça vise surtout à informer sur cette situation, en fait. Et on voudrait qu'à chaque fois que les gens organisent des prix ou organisent des expositions, ils pensent à que ces disparités existent, et que quand ils regardent sur le 10 ans à qui ils ont consacré des expositions, ils s'arrangent pour que globalement, il y ait plus d'égalité, voilà, plus de parité, je dirais, entre les hommes et les femmes. Bon, on veut rien imposer, on veut pas imposer la parité en BD. Mais on veut surtout amener une réflexion sur ces questions-là, à vraiment que les gens réfléchissent à leur pratique, en fait.
Et est-ce que c'est quelque chose aussi que vous cherchez à amener par ailleurs dans vos personnages, de faire des personnages féminins qui soient forts, qui soient présents en avant? Par exemple, je pense à votre série de polar Du plomb pour les garces. Est-ce que ça participe de ce même mouvement?
Oui, ça participe aussi de ce mouvement-là, effectivement. Je l'avais appelé, alors c'est un peu l'art du plomb pour les garces, où on voit qu'une starlette qui ressemble à Britney Spears se suicide au milieu de Los Angeles de manière très spectaculaire, et où une enquêtrice, je dirais avec des gros seins pour la caricaturer, enquête sur cette situation dans le milieu des pop stars. En fait, on voit Madonna qui apparaît aussi, et on découvre que tout ça est une histoire de paparazzi, en fait, qui a essayé de faire chanter des chanteuses qui avaient des relations entre elles, etc. On voulait publier des photos. Enfin, une histoire finalement assez basique. Mais au travers de cette histoire-là, j'ai voulu vous montrer des histoires de femmes fortes, justement, qui prenaient leur carrière et leur vie en main. Et je l'avais appelé Du plomb pour les garces, parce que garce au sens de féminin de garçon, en fait. Au sens où il n'y a pas de raison que les femmes soient différentes des hommes, finalement, quoi. Donc j'ai montré à la fois des garces au sens positif de cette policière qui finalement n'est pas qu'une femme à gros seins, ce qu'elle apparaît au premier abord. C'est aussi quelqu'un avec une forte personnalité qui parvient à s'imposer dans un monde assez machiste, assez masculin. Aussi des garces évidemment au sens premier du terme, puisque je montre des femmes méchantes. C'est-à-dire que je sais sortir du cliché de la femme, vous savez, qui est forcément plus sensible, plus douce, etc. etc. quoi. Parce que c'est vrai que c'est un cliché qui demeure aussi. On parlait du collectif des créatrices il y a 5 minutes. Mais quand j'ai commencé la bande dessinée, je suis arrivée avec Le Fléau des Dieux, donc il y a une série de space opéra, d'héroïque fantasy spatiale. Et tout le monde a été assez surpris. À part mon éditeur Mourad Boudjelaï qui a applaudi des deux mains. Mais j'entends ça. Ah, comment, Valérie, tu ne fais pas de la bande dessinée pour enfants, tu es sûre? Ou toi qui as fait une grande école, tu es sûre que tu ne veux pas entrer plutôt à l'association, faire du roman graphique, faire ton autobiographie en BD, etc. Une femme qui faisait de l'héroïque fantasy, c'était un peu du jamais vu. Bon, j'exagère, évidemment. Mais c'était quand même ça, l'ambiance, quoi. J'ai longtemps dû me justifier de mes choix, en fait. Et encore, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu des gens venir en dédicace et être surpris d'avoir une femme en face d'eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient lu la BD sans regarder le nom des auteurs. Et tout d'un coup, c'est une nana qui l'avait écrit. C'était quand même un peu bizarre, quoi. Donc malheureusement, il y a encore pas mal de clichés qui tournent autour de ça, oui.
Et donc on essaie de faire changer les choses pour la jeune génération?
Un petit peu, oui, pour la jeune génération, oui. Bah heureusement, ça a beaucoup changé en BD. Là, dans ma génération, on était, je crois, 10% à peu près des auteurs étaient des autrices. Chez les plus jeunes, c'est 50-50. On arrive vraiment à l'équilibre. Donc ça c'est très positif, oui. Donc
ça, c'est voilà, la bonne nouvelle quand même, quand on parlait d'espoir tout à l'heure. Alors là, je vais me permettre de faire un peu ma fangirl, si vous me permettez. Mais... vous avez donc des univers et des engagements forts, et en même temps, ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est que vous avez des personnages qui sont pas manichéens, et souvent vos personnages sont entre deux univers. Donc je pense par exemple à l'héroïne du Fléau des Dieux qui est prise entre le monde romain et le monde barbare, ou quand vous reprenez Alix pour Alix Senator, vraiment vous mettez en avant son ascendance à la fois romaine et gauloise, le fait qu'il soit entre deux mondes. Votre Jeanne d'Arc pareil, qui est entre le monde païen, le monde chrétien, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'avoir des personnages complexes, d'avoir des univers qui ne soient pas tout blanc et tout noir?
Oui, bah ça, déjà ça, c'est une grande richesse, je pense, de pouvoir avoir plusieurs cultures à sa disposition et on n'en profite pas assez. Et c'est vrai que j'essaie d'avoir des personnages qui réconcilient... je suis contre le choc des civilisations, si vous voulez. Je sais qu'il y a parfois des frictions entre cultures qui sont inévitables, malheureusement. Je pense qu'il faut vraiment aller vers les cultures qui nous sont étrangères et essayer de s'enrichir à leur contact, quoi. Par exemple, mon Alix Senator, c'est un Gaulois qui est venu vivre à Rome, qui est devenu romain, qui est devenu sénateur romain, qui est totalement intégré à Rome, mais qui en même temps, j'essaie de l'envoyer systématiquement en Orient dans Alix Senator, parce que j'essaie de confronter finalement ce romain qu'il est devenu à l'Égypte, à l'Asie mineure, à ses religions parfois extrêmes, à d'autres choses qui nous sont totalement étrangères, qui sont parfois même extrêmement choquantes pour nous, mais qui finalement nous permettent de réfléchir à ce qu'on est visiblement, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres, qu'est-ce qu'on a à leur apprendre aussi parfois, dans une vision égalitaire des choses. C'est-à-dire qu'Alix n'a pas à choisir entre Rome et la Gaule, de même que la Flavia du Fléau des Dieux. Quand elle rencontre Léon, alors au début c'est une victime expiatoire, elle est destinée à être sacrifiée à une de leurs déesses. Alors évidemment, vu comme ça paraît extrêmement cruel, elle devrait détester tous ces gros barbares qui n'ont pas l'air d'avoir de culture et de civilisation, et que finalement, quand elle est contrainte de vivre parmi eux, non seulement elle tombe amoureuse d'un de ces uns, en plus elle découvre leur culture, leur civilisation, justement, que ce ne sont pas que des gros barbares, et qu'ils ont quand même quelque chose à apporter à l'Empire. Même si c'est sous un mode violent et c'est extrêmement difficile, tout ça peut quand même avoir une issue positive, même si on doit passer par beaucoup d'épreuves et que c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est quand même très important, surtout à l'époque où nous vivons. Bon, je vais pas vous rappeler l'actualité qui est souvent tragique en même temps. Mais c'est vrai que quand on voit, par exemple, les migrants arriver chez nous, on voit beaucoup de gens, malheureusement, on ne voit que le poids économique qu'ils peuvent être pour nous et ne voit pas tout ce qu'ils peuvent nous apporter en termes culturels. Mais aussi, je parlais d'économie en termes économiques. J'ai vu sortir des chiffres pour la Suède il y a quelques semaines où on s'aperçoit que l'apport des migrants qui sont arrivés là-bas a en fait relancé plutôt l'économie, que c'était plutôt, même de ce point de vue-là, plutôt une chose positive, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire toujours « Ah, vous regardez en Allemagne, il y a des méchants migrants qui ont tripoté des femmes allemandes, c'est pas bien, etc. » Et on oublie de dire tout le positif qui va avec, quoi. Et c'est vrai que dans mes histoires, j'essaie toujours de montrer les deux et de dire « Voilà, quoi. N'oubliez pas le reste. »
Oui, et puis même dans le Fléau des Dieux, j'ai l'impression que Flavia, son parcours, ça lui fait remettre aussi en question la civilisation romaine de laquelle elle vient.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en se confrontant aux autres, on voit aussi ce qui ne va pas chez nous, quoi. C'est-à-dire que c'est en voyant Léon, en voyant tout ce qu'il y a de vitalité, d'énergie, de force, de capacité d'évolution chez Léon, qu'elle se rend compte qu'elle, que son empire romain, il est complètement mort, en fait. Il n'est pas du tout vivant, avec sa petite vie de petite fille tranquille, chez papa, maman. C'est presque la petite maison dans la prairie, sa vie chez ses parents. Bon, c'est sympa, mais la vie, c'est autre chose, quoi. La vie, c'est du foisonnement, c'est du combat. Peut-être de la lutte pour avancer, pour évoluer, pour devenir meilleur, etc., quoi. Mais encore une fois, je vois vraiment ça sur le mode de l'égalité, parce que j'ai aussi adapté un roman de Stéphane Vull qui s'appelait Rayon pour Sidar. Alors, c'est un roman qui a été écrit de mémoire en 1957. Et Vull a beau être quelqu'un de progressiste, quelqu'un qui est, je dirais, attentif. Alors, à l'époque, la France était coloniale. Donc, on était implanté il y avait la guerre d'Indochine, on était implanté en Algérie, etc. Et Vull a beau être un progressiste, il a encore une vision des indigènes très colonialistes. C'est-à-dire que pour lui, sa relation à l'indigène, sa relation positive à l'indigène, c'est le paternalisme. C'est-à-dire que ces braves indigènes, ces braves sauvages, il va falloir les civiliser. Et finalement, ça appartient encore à l'Européen de leur apprendre ce qu'est la vie et ce qu'est la civilisation. Bon, on en est un peu revenu, quoi. Je crois qu'il faut essayer d'abandonner ce genre de choses et que l'Occident n'est pas là pour apporter ses valeurs forcément à notre culture et les imposer par la force.
Parce que remettre en cause justement la vision officielle de l'Occident, c'est aussi quelque chose que vous faites dans l'Uchronie.
Oui, c'est-à-dire que l'Uchronie justement me permet d'imaginer qu'est-ce qui se serait passé si. Et c'est vrai que moi dans l'Huxley, ça vient de Robin de l'Huxley, Robin des Bois. Et j'imaginais ce brave Robin des Bois confronté à une invasion de ce qu'il appelle les Atlantes par défaut, c'est-à-dire des peuples venus de ce qu'on appelle nous l'Amérique. C'est-à-dire que c'est pas nous les Européens qui découvrons l'Amérique, ce sont les Américains, enfin les Aztèques, les Mayas, les Incas, qui nous découvrent pendant le Moyen-Âge. Ce sont eux qui arrivent en Europe pendant les croisades. Et comme justement c'est les croisades, toutes les armées européennes sont parties. L'Europe chrétienne est sans défense. Et donc ce sont eux qui nous conquièrent et qui nous réduisent, en esclavage, comme nous avons essayé de les réduire en esclavage. Bon, évidemment, Robin va résister et tout ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Mais c'est vrai que montrer l'Occident en position de vaincu, montrer tout le dommage qu'on aurait pu subir, tout ce qu'on aurait pu à perdre, ça aide aussi à nous montrer ce que nous, on fait perdre aux autres, parce qu'on détruit chez les autres, en fait, par nos positions colonialistes, voire impérialistes. Oui.
Mais quand même, au final, j'ai l'impression qu'il y a une énergie, une combativité qui transparaît dans toutes vos histoires, et même si vous parlez de choses parfois sombres, c'est toujours un peu l'espoir qui l'emporte à la fin. C'est ma vision optimiste des choses en tant que lectrice.
Non, j'essaie toujours d'être optimiste. C'est-à-dire que je pense que ça peut être dur, ça peut même être très dur. Ça peut même être affreusement dur à certains moments, mais que quand même, on garde toujours une chance de s'en sortir. Bon, ça, c'est une vision purement personnelle. Vous verrez que, si vous connaissez Denis Bajram, mon mari, il est nettement plus pessimiste que moi. Lui, il a parfois l'impression que l'humanité va s'autodétruire. Il imagine même dans sa série que la Terre est détruite. Moi, je suis quand même plus positive. Je pense qu'on garde quand même une chance de s'en sortir, oui.
Et en vous entendant parler, on a l'impression aussi que quand même, avec tout ce que vous faites dans la bande dessinée française, il y a une vraie liberté de création. Enfin, vous pouvez explorer beaucoup de choses. C'est une chance que vous avez, vous, c'est général dans le milieu?
C'est assez général dans le milieu. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, la bande dessinée réclame beaucoup moins de besoins financiers que le cinéma. Même si les auteurs sont relativement mal payés, même un auteur bien payé coûte beaucoup moins cher quand il réalise sa BD qu'un cinéaste, évidemment. Donc on n'a aucune contrainte pour ce qui est de décor, de personnages. Je vous disais que les acteurs sont toujours disponibles. C'est vrai qu'il y a des auteurs de bande dessinée qui s'amusent à donner des visages d'acteurs connus à leur création. On peut leur faire n'importe quoi. J'ai écrit récemment une BD qui s'appelait Le Club des Prédateurs. Ça se passe au 19e siècle dans l'Angleterre gothique, où on a un club de gentlemen anglais qui s'ennuie et qui se croit tellement supérieur au reste de la population que pour ses grands repas, ses grands banquets, il dévore des enfants. C'est du dernier chic, c'est un plat que personne d'autre ne peut s'offrir, donc c'est évidemment extrêmement valorisant pour eux. Et j'ai représenté un plat avec un corps d'enfant cuit, une scène d'horreur. Ça peut se faire beaucoup plus facilement en BD, même si Walking Dead va très loin, je sais, en ce moment. Pas que ça choque, mais c'est quelque chose qu'on peut beaucoup plus se permettre en bande dessinée que dans le cinéma. Moi, malgré ça, ma bande dessinée reste assez tout public, si vous voulez, parce que le recul qu'on a par rapport aux images, le fait de pouvoir s'extraire beaucoup plus facilement de la bande dessinée, rend ça beaucoup plus acceptable finalement que les fictions les plus horrifiques. Et c'est un peu pareil pour tout finalement. On peut se permettre, je pourrais faire de la pornographie en BD, serait beaucoup moins choquante. J'ai jamais écrit de bande dessinée pédophile, et je crois que la représentation de la pédophilie serait beaucoup moins choquante en bande dessinée qu'en film et permettrait peut-être d'aborder ce thème. Après, il faudrait voir comment, évidemment, pas n'importe comment. Je parle pas de pornographie enfantine, je parle vraiment d'une réflexion sur la pédophilie. Tout ça est possible. On n'a pas vraiment de censure. Quoique. C'est-à-dire que les auteurs jouissent d'une grande liberté. Après, il y a l'autocensure. Il y a évidemment toutes des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi, à titre personnel, j'ai aucune envie de parler de pédophilie, par exemple. C'est quelque chose qui me tente pas du tout. On a peu de censure, en revanche, des éditeurs qui nous laissent globalement assez libres, je dois dire. Ça, c'est très agréable. Ce sont des éditeurs qui nous font confiance. Après, ce qu'on fait leur plaît ou leur plaît pas, mais il n'y a pas d'éditeur, par exemple, qui aurait une orientation politique particulière et qui dira une BD féministe, non, surtout pas, pas de gauchiste à la maison, quoi. Ça n'existe quasiment plus. Sinon, j'ai eu des ennuis avec ma Jeanne d'Arc, alors pas venant de mes lecteurs, mais venant d'une frange de l'extrême droite politique, où évidemment des chrétiens intégristes m'ont reproché de faire de Jeanne d'Arc une sorcière. Donc j'ai reçu des mails désagréables, j'étais prise à partie une ou deux fois en rencontre comme ça, mais c'est pas aller plus loin. Je veux dire, mon bouquin est toujours édité, j'ai pas été agressée, donc c'est pas aller très loin finalement. Donc je crois que ça c'est une grande chance qu'on a en bande dessinée. Puis comme on a quand même un genre un peu méprisé, je crois qu'on ne nous surveille pas trop. Et ça, c'est pas mal non plus, quoi. Je crois que faire un scandale avec une bande dessinée, ce serait très difficile. Et c'est peut-être pas plus mal, oui.
Enfin, un genre qu'on ne surveille pas trop, mais en même temps, justement, l'exemple sur Jeanne d'Arc autre, la bande dessinée, ça permet de toucher un très large public. Et l'exemple Jeanne d'Arc, ça montre que ça, mine de rien, encore un impact dans la sphère culturelle qui fait que même c'est connu par des gens qui ne sont pas forcément vos premiers lecteurs.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un large public, mais en même temps, on est encore jugé comme quantité négligeable. Bon, évidemment, c'est moins pire qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de bande dessinée du tout dans les médias. Maintenant, on parle de BD sur France Culture, on en parle un peu à la télévision. Riyad Sattouf va chez Canal+, enfin, ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus ouvert. Hein. Johan Soir a une chronique sur France Inter. Mais quand même, globalement, la bande dessinée, surtout quand on fait du genre, ça reste malgré tout un mauvais genre. Et donc c'est un genre négligeable. Donc finalement, ce qu'on raconte, c'est pas très important. Enfin, c'est jugé encore comme ça par beaucoup de gens. Et bon, malgré tout, même si on touche, bon, y a toujours quelques énervés qui réagissent. Mais globalement, quand même, on nous laisse faire ce qu'on veut.
Et est-ce qu'on voit la différence d'accueil justement de vos bandes dessinées de genre entre un festival comme ici, qui est vraiment très axé SF, et un festival plus généraliste Ou est-ce que vous êtes chez vous partout finalement? C'est la beauté de la BD.
Oui. La BD n'est pas un genre en elle-même, donc elle est un peu. On peut aborder tous les genres en bande dessinée, donc c'est vrai qu'on est un peu chez nous partout. Après, c'est vrai qu'on a une affection particulière pour le festival de SF, vu qu'on est des auteurs de SF et qu'on a un goût pour ça. Après, non, il y a régulièrement des auteurs de bande dessinée partout. Mais c'est vrai qu'on nous pose pas toujours les mêmes questions. C'est vrai que dans les festivals de bande dessinée, on nous pose plus des questions sur nos personnages, sur la BD elle-même, sur les décors, des choses comme ça. Les questions ici, c'est plutôt des questions plus littéraires, plus science-fiction, justement. Oui, ce sont des questions plus orientées.
D'accord. Bon, bah, désolé pour l'orientation. Et avant de peut-être passer la parole aux questions, il y a quand même la question bateau aussi, que par contre, on doit vous poser dans tous les festivals. C'est, et maintenant, après avoir exploré tout ça, c'est quoi, quelque part, la prochaine étape? C'est quoi votre nouvelle frontière? Si c'est pas indiscret.
Non, pas du tout. Moi, je crois que je vais continuer à faire de la bande dessinée à la fois de péplum et de science-fiction. J'ai différents projets de SF. Puis je vais essayer de repousser un peu toujours les frontières de la bande dessinée. Je vous disais que j'aimais beaucoup la bande dessinée formelle. Je crois que je vais encore essayer de réfléchir à différentes modes de mise en scène et à voir jusqu'où on peut pousser le média BD et ce qu'on peut dire et ne pas dire aussi en bande dessinée sur l'humain, justement.
Et est-ce qu'il y a une collaboration qui est plus proche, plus resserrée avec un dessinateur quand vous allez vers des choses qui repoussent un peu plus ses limites formellement? Est-ce que c'est un dialogue qui est plus poussé, plus en amont?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je vous parlais d'Abîme et de Trois Christ. Je les ai réalisés avec Denis Bagerin, avec mon mari, justement, parce qu'on est en atelier ensemble, tout simplement. Je ne sais pas, parce qu'on a une vie privée particulière tous les deux, mais vraiment être ensemble dans la même pièce, pouvoir en discuter côte à côte, c'est vraiment un grand avantage. Je vous parlais du Fléau des Dieux tout à l'heure, dire que je travaillais avec un auteur qui était très loin, on travaillait beaucoup par internet. C'est très compliqué de devoir tout écrire, de devoir tout expliquer par internet. Bon, maintenant il y a Skype, donc je pense que ce serait plus simple. Bon, à l'époque quand on a commencé en 98, il n'y avait vraiment que l'écrit qui pouvait nous relier. Plus on s'est poussé formellement, oui, on doit être proche en fait de ses collaborateurs. Et Trois Christ, ça a vraiment été écrit au jour le jour. On était quasiment assis à la même table pour régler les problèmes case à case, un par un, côte à côte, quoi. Et ça, c'est vraiment la dimension qui est très agréable du travail en atelier, où on peut vraiment discuter constamment, échanger dans l'échange constant autour de notre travail.
Sur la question du personnage, par exemple, la création d'un personnage, c'est plutôt un travail de scénariste, plutôt l'illustrateur qui amène un physique et vous qui mettez derrière une personnalité, ça dépend des genres
ça dépend des collaborations, et ça dépend pas tellement des genres, mais plutôt des collaborations, en fait. Parce qu'on a des dessinateurs qui aiment quand on leur apporte tout cuit le personnage. Je sais que Thierry Desmarais, qui fait Alex Sénateur, était ravi de travailler sur un personnage existant déjà, parce que justement il avait son physique, il avait sa psyché, il n'avait plus qu'à l'adapter. Et ça lui permettait, ça l'a rassuré beaucoup, en fait. C'est qu'il avait quelque chose de concret sur lequel s'appuyer. Par contre, d'autres dessinateurs aiment créer des personnages de toutes pièces. Quand j'ai fait Duplon pour les gars, ce que j'ai parlé de la. Je lui ai dit, voilà, je voudrais un personnage de policière, de femme forte. À Loïc Malnati, qui a fait le dessinateur, il m'a dit, bon. C'est bon, je la vois, je sais comment elle est, je sais qu'elle est brune, je sais qu'elle fait telle taille, je sais qu'elle a eu tel passé, tel problème avec sa mère, je la vois. C'est bon, je t'envoie des croquis, laisse-moi faire, quoi. Ça dépend vraiment des personnalités des dessinateurs.
Et est-ce qu'on a parfois des surprises au casting quand on voit comment certains personnages sont pris?
Parfois, oui, on est très surpris. Par exemple, quand j'avais commencé moi Jeanne d'Arc, je savais pas du tout à quoi Jeanne d'Arc allait ressembler. Et quand Jeanne Puchol, la dessinatrice, m'a envoyé son croquis de Jeanne d'Arc, quand j'ai vu cette petite femme un peu ronde, un peu brune, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois Jeanne d'Arc aussi potelée. Quand même, pour moi, je voyais une guerrière vraiment très élancée, vous savez, un peu le cliché qu'on a de la guerrière d'Heroic Fantasy en quelque sorte. Et elle me dit non, écoute, moi je la vois vraiment beaucoup plus incarnée, beaucoup plus féminine. C'est une vraie femme avec une vraie poitrine, des vraies rondeurs. Voilà. La femme guerrière parfaite pour moi, c'est cette femme, finalement assez quelconque physiquement, mais qui dégage beaucoup par, uniquement par sa personnalité en fait.
Et est-ce qu'après ça peut influer sur le scénario?
Ah oui, beaucoup, oui. Bah, le fait justement que Jeanne d'Arc était autant incarnée, ça m'a donné envie de la montrer nue, assez paradoxalement, quoi. De montrer cette féminité épanouie. De dire que voilà, Jeanne d'Arc, c'est pas seulement une idée, c'est pas seulement une femme libre, c'est pas qu'une idée, quoi. C'est aussi un corps en liberté, c'est quelqu'un qui s'épanouit aussi dans sa vie physique que dans sa vie spirituelle, en fait.
Sur les personnages aussi, sur Alix Senator, où vous avez vieilli Alix, quelque part, c'est un peu paradoxal de vieillir un personnage pour lui donner plus de modernité.
Oui, c'est un peu oui, évidemment. Vu comme ça, c'est un peu paradoxal. Mais c'est vrai que l'Alix créé par Jacques Martin en 1948, c'est un personnage de son époque, c'est-à-dire qu'il est assez manichéen. C'est un jeune homme bien sous tout rapport, un peu le genre idéal, un peu boy scout. Le bien est du côté de César et de son côté, les méchants sont du côté de Pompée et du côté des ennemis de César, et c'est un peu comme ça tout le temps, quoi. Même si on pourrait nuancer après, l'Alix classique est quand même une série avec beaucoup de cruauté, beaucoup de nuances et de choses assez inattendues pour l'époque. Mais en tout cas, l'Alix, c'est vraiment un boy scout. Et nous, quand on a voulu le vieillir, on s'est dit que justement, cet Alix qui aurait 30 ans de plus, qui aurait vécu les guerres civiles, qui aurait vu ses amis mourir, qui aurait souffert lui-même, qui aurait connu des défaites, forcément les défaites de la vie, il serait devenu père aussi, qui aurait dû élever seul un enfant. Parce que c'est un des grands suspens de la série, je ne dis pas qui est la mère du fils d'Alix. Il y a beaucoup de lecteurs qui me demandent, mais alors qui c'est la maman? Donc c'est Alix qui est devenu père, qui a beaucoup souffert, bah finalement il a pris beaucoup de bouteilles, il est devenu plus humain, il ne peut plus être manichéen comme il l'était à 20 ans, quoi. Il sait bien qu'il n'y a pas le bien d'un côté, il n'y a pas le mal de l'autre, que tout ça, il y a beaucoup de nuances, il y a 50 nuances de gris, comme on dirait. Et finalement, c'est ça qui le rend plus humain, quoi. Il sait qu'il n'est pas forcément meilleur que les gens qu'il a en face de lui, qu'il n'a pas la vérité toute cuite, qu'il n'y a pas forcément que des méchants romains et des gentils gaulois, même si ce sont les romains qui ont conquis la Gaule, par exemple. Tout ça est beaucoup plus compliqué, quoi.
Et est-ce que c'est ce que permet peut-être la série aussi, par rapport au one-shot, d'avoir de la place pour développer des personnages, pour les faire vivre sur une durée un peu plus longue?
Oui, tout à fait. Tout
les
à
faire
fait.
Évoluer.
Tout à fait, oui. C'est un peu le problème auquel essaie de vaincre les gens qui font du roman graphique, en fait, qui font des livres de 400 pages pour justement avoir la place de bien développer leur univers et leurs personnages. Bon, nous qui faisons du 48 pages, qui sommes restés au format classique de la bande dessinée, c'est vrai qu'il nous faut plusieurs albums, souvent, pour bien développer un personnage, bien montrer ses différentes facettes, quoi. En 48 pages, c'est difficile, on a beaucoup d'actions à montrer, surtout dans le tome 1 d'une série, où finalement tout est inconnu au lecteur, il faut tout lui dire d'un coup. On lui dit tout succinctement pour qu'il puisse comprendre. C'est difficile de développer vraiment un point particulier. Oui.
Donc vous nous encouragez à lire vos tomes 2 fortement.
Exactement, voilà. Ne vous arrêtez pas au tome 1.
Comme j'avais dit, j'ai sûrement des questions que vous vous posez auxquelles je n'ai pas pensé. Donc je vais peut-être laisser le micro à l'assistance. Si quelqu'un a une question. Oui, non, peut-être. Ou si vous voulez, on continue jusqu'à ce qu'on nous mette dehors. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si on a encore un petit 10 minutes, je crois. Moi, oups. Est-ce qu'il y a une de vos. Dans toutes vos séries, est-ce qu'il y en a une qu'on n'a pas abordée, qui est un peu quand même celle que vous voudriez faire découvrir à votre public, peut-être une qui est moins connue que d'autres? Est-ce que c'est votre côté question. Gothique, dont on n'a pas trop parlé, par exemple, vous aimeriez en parler?
Mon côté gothique. Alors, c'est plutôt le côté qui est dans le Club des Prédateurs ou dans le Petit Miracle. C'est vrai que j'aime beaucoup les contes. Les contes gothiques, en fait, les contes qui servent à montrer par le côté obscur, je dirais un peu les pires côtés de l'humain, je dirais. C'est assez. Ça répond à plusieurs besoins chez moi. Le premier, c'est de me lâcher, parce que j'essaie dans la vie quotidienne d'être quelqu'un d'assez. J'ai un tempérament assez timide. J'essaie d'être gentil dans la vie quotidienne pour pas mettre la zone partout. Mais quand j'écris une BD, par contre, j'ai pas envie d'être gentille. Je pense qu'on peut se lâcher totalement en bande dessinée. Je veux dire qu'on peut montrer le pire visage de soi. C'est pas montrer le pire pour montrer le pire, mais pour comment dire, tout ce qu'on ne ferait pas dans la réalité, on peut le faire en BD. C'est-à-dire que toutes les colères que j'ai dans la vraie vie, que je ne peux pas montrer dans la vraie vie, même quand je dis que vous pouvez parler du snack ou des états généraux, même si notre situation est très dramatique en BD, quand je rencontre un éditeur, je peux pas lui sauter à la gorge pour lui dire bon maintenant tu vas lâcher ton argent. Espèce de sale capitaliste, ça n'aurait pas beaucoup de succès. Au contraire, quand j'écris Le Club des Prédateurs, qui est une série d'horreur comme ça, je peux montrer des méchants capitalistes. Je peux montrer ce que le capitalisme adorifique finalement. Parce que ces gentlemen, bien sous tout rapport, ces bons pères de famille, ces industriels qui mangent des enfants, en fait, symboliquement, ce sont vraiment ces industriels qui ont consumé à petit feu les ouvriers dans leurs usines, quoi. Il faut dire qu'à l'époque, on devenait ouvrier parfois à 5 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas une légende, les petits-enfants qui poussent les wagons dans des mines, ça a vraiment existé. Il y avait vraiment des enfants de 7 ou 8 ans qui travaillaient 12 heures par jour derrière des métiers à tisser, qui souvent attrapaient des maladies pulmonaires et qui mouraient à 12 ans. Malheureusement, c'est une vérité historique. Et c'est vrai qu'écrire, le dire comme ça, bon, ça peut être assez rébarbatif. Et écrire un conte horrifique, donner une symbolique de l'horreur, montrer vraiment qu'ils mangeaient au sens propre du terme les enfants, ça permet de montrer tout ça finalement, je veux dire, d'une manière plaisante, enfin d'une manière assez, assez attirante pour le lecteur malgré tout, faire passer la pilule, quoi. C'est vrai que le côté gothique permet ça, quoi. Plus peut-être que le côté strictement réaliste, qui n'est pas forcément très amusant. Ouais.
Et c'est en fait le détachement dont vous parlez qui permet finalement de parler de beaucoup plus de choses et d'aller beaucoup plus loin que si on restait dans des ambiances purement réalistes, 20e siècle de nos jours.
Oui, bah, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Je pense que quelqu'un qui écrit des polars actuels vous dirait l'inverse. Mais oui, pour moi, c'est exactement ça. Oui. Ça permet d'aller plus loin en fait. Oui.
Même dans le polar déjà est un genre qui met une certaine distanciation, enfin en jouant sur certains codes aussi. Est-ce que le jeu sur les codes, l'aspect ludique, le fait que... Ça vous parle aussi, que ça soit un grand jeu de...
Ah bah bien sûr, oui. Je vous parlais de Trois Crises, là, du jeu d'écrire trois histoires avec les mêmes cases, les mêmes dialogues. C'est quand même un jeu de puzzle à la base. Hein. Tout ça est fait pour s'amuser aussi, quoi, je dirais. Justement, c'est aussi un des avantages de la bande dessinée. C'est effectivement, tout ça est un jeu. L'Uchronie est un jeu. S'imaginer si Hitler était toujours vivant et vivait au Brésil, et si... Et si on avait été découvert par les précolombiens, et si évidemment tout ça est d'abord un jeu, oui.
Voilà, donc on revient finalement sur l'espoir, sur tout ce dont on parlait quand même. Vous avez des univers qui font plaisir aux lecteurs.
Je sais, aussi, sinon il faut que je leur donne envie de me lire malgré tout.
Voilà, et vraiment l'aspect aventure, l'aspect histoire, l'aspect de mettre des rêves, oui, et des mondes beaucoup plus grands dans la tête de vos lecteurs. C'est peut-être ce que vous défendez avant tout dans vos BD.
Oui, bah, j'espère aussi évidemment leur donner du loisir, simplement du divertissement. C'est vrai que montrer l'Empire romain galactique, c'est aussi montrer des grands décors, des belles armures bien rutilantes. Et aussi ce plaisir-là, effectivement. Le plaisir graphique, c'est aussi un plaisir du dessin, un plaisir de l'illustration, de montrer des mondes étranges et mystérieux, de faire rêver un peu à si l'homme conquérait la galaxie, à quoi pourrait ressembler son univers, enfin... à faire rêver à tout ça, évidemment. La grande aventure, je suis sensible comme tout le monde. J'aime les grandes histoires d'amour. J'aime qu'il y ait des meurtres mystérieux qu'on doit élucider. J'aime tout ça, évidemment.
Et enfin, on sent qu'il y a vraiment des émotions fortes, qu'il y a du suspense, qu'il y a vraiment des rebondissements, des retournements de situation, et que vous prenez plaisir à créer tout,
oui,
ça.
J'aime beaucoup, en fin d'album, faire un dernier suspense pour que le lecteur ait très envie de lire la suite. Mais j'essaie toujours de le piéger un petit peu à la fin et de faire au moins une surprise finale, oui. Pour dire, mais finalement, alors, c'est différent, c'est encore autre chose, c'est encore quelque chose de caché derrière, mais que se passe-t-il ?
Voilà, qu'on reste sur une question qui donne envie
exactement.
De creuser. Si vous voulez aussi donner envie d'aller plus loin.
Exactement, oui.
Voilà, et donc vraiment, pour ceux qui connaissent, je vous encourage à en lire d'autres. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage vraiment à découvrir les albums scénarisés par Valérie Mangin. Parce qu'en tout cas, ce que je vous promets, notamment pour les lecteurs de SF, si vous voulez du voyage dans l'espace, c'est du voyage dans l'espace qui vraiment défouraille. Voilà, si je peux me permettre.
Tout à fait, oui.
Il y a un petit mot de conclusion que vous aimeriez donner ?
Lisez mes livres. Voilà. Ou mieux, achetez-les encore. Volez-les, je ne sais pas.
Et puis, parlez-en autour de vous, parce que les livres, ça vit aussi quand on en parle et qu'on les transmet aux autres. Donc, je me permets. Voilà.
Ouais, merci à vous.
Merci beaucoup à vous, Valérie.